Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Antoine Volodine, porte-parole de Lutz Bassmann, qui publie Les Aigles Puent chez Verdier. La fiction devient un élément fondateur du réel. Hier soir, Antoine Volodine, vous êtes venu parler de votre livre écrivain, enfin un livre que vous publiez sous votre nom, au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Et à cette occasion, nous avons tourné autour de cette notion du post-exotisme qui vous permet de construire une fiction polyphonique, un travail de création romanesque qui passe, vous nous l'avez dit, par l'affirmation de plusieurs voix d'auteurs, hommes et femmes, et vous en donnez l'exemple en cette rentrée littéraire, en publiant trois livres simultanément chez trois éditeurs différents, écrivains que j'ai cités au Seuil, sous le nom de Lutz Bassmann, Les Aigles Puent chez Verdier, et sous un autre nom, féminin cette fois, Manuela Dreger, 11 rêves de suie aux éditions de l'Olivier, nous en parlerons demain soir. Donc, Lutz Bassmann, ce soir, Les Aigles Puent, ce n'est pas son premier livre chez Verdier.
Chez Verdier, c'est son troisième livre, effectivement, puisque les deux premiers s'intitulaient « Haïku de prison » et « Avec les moines soldats ». Alors, en ce qui concerne le genre de ces ouvrages, d'abord, on peut voir que Lutz Bassmann est le seul d'entre nous, auteur post-exotique, à avoir écrit un recueil de haïku, ce qui est une particularité très grande de son écriture.
Oui, parce que ça nous permet d'ouvrir un chemin vers l'Extrême-Orient, parce que je sais que ça, l'Extrême-Orient ne laisse pas indifférence, c'est le moins qu'on puisse dire, et vers la poésie. Est-ce que le post-exotisme est aussi une poétique?
Ah, je pense que le fondement de toute notre parole à nous tous, à Lutz Bassmann comme aux autres, c'est bien l'image. L'image qui surgit grâce à la musique des mots, grâce à des procédés narratifs, mais avec la volonté de s'affirmer et d'exister en premier lieu, avant l'histoire. Et ça, je pense que par cela, nous sommes à l'intérieur d'un monde où la poésie est très importante. Une poésie d'image et pas une poésie abstraite, une poésie liée à d'autres modes d'expression que ceux du texte, et puisque j'ai parlé d'image, c'était également une poésie qui est extrêmement marquée par le cinéma et qui fonctionne souvent dans ses développements narratifs comme avec des séquençages et des découpages comme on en a dans les comme on en a dans les films.
Donc une littérature qui ne ressemble pas tout à fait à la littérature, hein, une littérature qui, comme le dit d'ailleurs l'un des écrivains du livre écrivain, Maria 313, une littérature qui n'a pas de nom en fait, c'est-à-dire une littérature étrangère. Et là on est peut-être dans la définition réelle du post-exotisme, la création d'une littérature étrangère de langue française.
Oui, c'est une des définitions que nous avons fréquemment données. Une littérature de l'ailleurs qui va vers l'ailleurs, une littérature étrangère écrite en français. En quoi est-elle étrangère ? Pas vraiment parce que les mondes sont étrangers, mais peut-être dans sa manière d'être dans le réel, qui ne répond pas au goût actuel et aux conventions surtout du roman français conventionnel, traditionnel ou même contemporain, avec toutes ses recherches plus ou moins avant-gardistes et très très variées. Nous sommes à part dans le paysage littéraire, point, voilà. J'allais dire dans le paysage littéraire français, mais la question qui se pose à nous, et Lutz Bassmann est très représentatif de cette problématique, c'est de ne pas appartenir à de ne pas affirmer un drapeau, de ne pas affirmer une nation, une nationalité, et au contraire de fabriquer quelque chose qui de fait est étranger, ou qui est, nous sommes très souvent réclamés également du cosmopolitisme, qui a souvent été considéré comme une insulte, mais nous sommes très volontiers. Nous prenons avec fierté ce qualificatif cosmopolite, dans la mesure où notre expérience narrative renvoie à l'expérience humaine en général, toute nation confondue, avec bien entendu un attachement sentimental particulier pour les nations écrasées et une détestation particulière pour ceux qui mettent leur nation au service de l'écrasement des autres.
Vous disiez hier, Antoine Volodine, que chacun des auteurs du post-exotisme, et ils sont très nombreux, parce qu'il y a ceux qui publient, ceux qui ne publient pas ou qui ne publient pas encore, tous existe évidemment à vos yeux, mais néanmoins il vous arrive de tenir la plume à leur place. Alors chacun ayant sa singularité, est-ce que vous n'êtes pas menacé quand même d'une certaine schizophrénie, voire pire?
Pire que la schizophrénie, c'est horrible. Oui, bien sûr, la menace existe, mais je pense que la maladie. La maladie mentale n'existe pas vraiment à partir du moment où on peut en contrôler les effets. Et là, dans le cas présent, je crois que jusqu'à présent, vous parlez de menaces, mais jusqu'à présent, j'ai échappé à l'abîme de la schizophrénie. Dans la mesure où ce que nous cherchons à affirmer sans cesse, c'est l'existence collective de la création littéraire dans le cadre du post-exotisme. Et lorsque une voix s'affirme, surgit, comme celle de Lutz Bassmann, eh bien, il ne s'agit pas d'une séparation du cœur. Il ne s'agit pas de. Il s'agit de quelque chose qui reste en harmonie profonde au niveau superficiel, mais également en profondeur, avec la communauté dont elle est issue et dont je suis donc le porte-parole. Mmh. Et ce qui réduit aussi les risques de d'éclatement intérieur pour l'auteur qui n'est pas un auteur de fiction, c'est que la pâte romanesque à laquelle nous nous référons sans cesse, notre mémoire commune, notre monde narratif qui se fabrique en permanence par un échange, par des murmures entre cellules de prisonniers, par des échanges de textes, par une rumination permanente de sujets, de textes, par des variantes poétiques et vocales de chacun d'entre nous, eh bien, permet de donner une unité qui est chorale, mais qui empêche cet éclatement. Si on prend une comparaison musicale, dans un orchestre, chacun joue sa partie, mais sans prendre son indépendance complète. Cela dit, les premiers violons jouent leur partition de premiers violons et sont parfaitement reconnaissables, identifiables à l'intérieur de la masse musicale.
Mmh. Mais concrètement, superficiellement et en profondeur, comment faites-vous, vous, Antoine Volodine, pour vivre à la première personne du pluriel? Parce que vous dites nous, vous ne dites jamais je.
Il faudrait réécouter, je pense que à de nombreuses reprises je dis « je », mais lorsque je dis « nous », c'est pour renvoyer à cette collectivité d'écrivains. Je pourrais jouer au jeu de dire « je » à la place de Luz Bassmann ou de Manuel Adreger, mais là, je pense que je serais menacé par la schizophrénie. Et je préfère porter la parole, défendre des livres d'autres que sont Luz Bassmann, Manuel Adreger, plutôt que de jouer le personnage de Luz Bassmann. Mmh. Alors, en les défendant, j'affirme quelque chose qui est une différence entre nous. Bien entendu, je pense que un auteur comme Luz Bassmann, qui ici publie son troisième livre, a affirmé puissamment son originalité à l'intérieur du monde post-exotique. Nous avons une tradition narrative qui utilise beaucoup le fragment, le renvoi au rêve, les glissements oniriques d'un réel à un autre réel, ou d'un rêve à un autre rêve. Nous avons une sorte de principe narratif commun, mais la manière de mettre les histoires en œuvre n'est pas la même chez Luz Bassmann, si on le compare à Manuel Adreger ou à Volodine. En particulier, donc par exemple, tout à l'heure je disais, Luz Bassmann est le seul à avoir écrit des haïkus. Mais on trouve également dans Les Aigles Pus une sorte de et dans Avec les moines soldats, qui est son deuxième livre, on retrouve une sorte de... voilà, son livre précédent paru il y a 2 ans chez Verdier, on retrouve une sorte de rudesse dans la manière de traiter l'action, dans la manière de traiter l'histoire, sans se perdre dans des descriptions où effectivement se perdrait l'attention du lecteur ou de la lectrice. On trouve cette rudesse, cette violence de la narration très présente dans Les Aigles Pus, qui fait effet immédiatement chez celui qui reçoit ces histoires, parce que d'une certaine manière il n'a pas le temps de respirer. Il y a beaucoup moins de respiration chez Luz Bassmann que chez Manuel Adreger, par exemple. Et il y a également chez Lutz Bassmann des manières de faire qu'on voyait déjà avec les moines soldats, qu'on retrouve dans les aigles pus, et qui consistent à raconter une scène de façon très détaillée et de permettre dans ce récit l'entrée du lecteur ou de la lectrice à l'intérieur de l'image, donc de créer une connivence avec le lecteur ou la lectrice dans un premier chapitre. C'est le cas dans Les Aigles Pus, où on voit un personnage, Gordon Coom, entrer dans une ville détruite, où il est seul, où tout a brûlé, tout a été transformé en une espèce de goudron infâme.
Oui, c'est la seule forme vivante qui subsiste.
Lui est le seul vivant, et il va donc s'installer sur ces ruines, lui à son tour touché par les gaz, les irradiations, les radiations, et il va mourir sur ces ruines et raconter des histoires, prendre la parole, on va en reparler. Mais à la fin du livre, on a de nouveau cette entrée dans la ville, on a de nouveau cette prise de parole qui est la dernière prise de parole de Gordon Coom, dans le noir de plus en plus, dans les ténèbres qui gagnent, qui sont ces ténèbres intérieures également, et cette répétition de la scène qui a des variantes, puisque au lieu de parler à un pantin, un gollywog et à un rouge-gorge, à la fin, Gordon Coom va reprendre cette marche dans les ruines, mais va se mettre à parler, à dire ses dernières paroles à une espèce de débris qui ressemble vaguement à une forme humaine, à un homoncule carbonisé. Eh bien, ce procédé qui consiste à reprendre à la fin, de façon détaillée également, la première scène, c'est un procédé qui est propre à Lutz Bassmann et qu'il avait utilisé avec les moines soldats plusieurs fois.
Dans ce livre, Les Aigles Pus, la guerre est partout.
La guerre est partout. Alors, ce qui est raconté dans ce livre, c'est l'horreur de l'anéantissement. L'horreur de l'anéantissement et, en même temps, la tendresse à l'égard de tous ceux qui ont été anéantis, qui ont été brûlés dans cette explosion de bombes expérimentales qui a détruit totalement une ville et qui l'a transformée en un monceau de goudron. Et Gordon Coom, donc, va s'installer au centre de ces ruines et va parler aux morts, va parler à ses camarades disparus et à ses enfants et à sa femme qui sont également sous les ruines, sous le goudron, sous les cendres, qu'il essaie au début de retrouver et très rapidement, voyant que c'est impossible, qu'il essaie d'évoquer, pas vraiment chamaniquement, mais d'évoquer en déclarant qu'il va faire rire les morts. Le discours qui anime Gordon Coom, qui va traverser l'ensemble du livre, c'est un hommage aux morts, un hommage à ceux qui ont disparu, qui ont des noms ou qui n'ont pas de noms, et également c'est une adresse tendre, ironique, humoristique parfois aux morts pour être près d'eux par la parole, par le souvenir et par éventuellement l'humour qui est l'humour du désastre qui n'appartient pas à Lutz Bassmann, qui est une donnée post-exotique, cet humour du pire.
Gordon Coombs est un survivant, pour employer ce mot qu'on a déjà utilisé dans l'émission précédente. C'est quelqu'un qui ne sait pas très bien, au fond, s'il est encore vivant ou s'il est déjà mort.
C'est le problème qui est souvent mis en scène dans nos livres et celui de Gordon Coombs dans Les Aigles Pus de Lutz Wassmann, c'est l'espèce de stupeur qui prend ceux qui ont survécu, qui n'ont pas eu la chance, finalement c'est comme ça qu'ils le voient, de disparaître avec les autres, d'être avec les autres, et qui se retrouvent seuls, vivants, avec la mémoire des autres à porter et avec ce devoir qu'il se fixe de parler aux autres et de les faire exister encore un peu en les plaçant dans des histoires qui sont parfois de pures fantaisies. Cela dit, ce que fait Gordon Coombs, c'est en même temps qu'il parle aux morts, de décrire le monde dans lequel ils ont vécu jusque-là. Et c'est un monde, vous disiez, la guerre est partout, c'est un monde effectivement de guerre et de destruction, mais ce n'est pas le front, ce n'est pas l'affrontement de deux armées, c'est cette guerre qui est, je pense, très présente aujourd'hui. En Irak, en Afghanistan, et au Pakistan, où des civils, souvent sans comprendre du tout ce qui se passe, se trouvent sous les bombes, se trouvent mitraillés avec des moyens techniques qu'ils ne peuvent pas imaginer, des drones, des engins téléguidés. Alors, ils vivent dans les ruines, ils vivent dans une pauvreté absolue. C'est les personnages de Gordon Coombs, enfin des Aigles Pus, mais c'est également un renvoi à notre présent. Ces gens malheureux, ces malheureux du monde qui vivent leur vie sous les bombes sans comprendre qui est l'ennemi, qui est l'ami, pourquoi on les tue. Et ce livre, même si il décrit un monde totalement autre, un ailleurs insituable sur les cartes, renvoie à une réalité qui est la réalité de la guerre contre les pauvres qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde.
La guerre qui est partout et la poésie nulle part. Parce que on parlait de la dimension poétique du post-exotisme, justement, à propos des haïkus de Lutz Wassmann. Mais il fait dire à son personnage de Gordon Coombs dans le livre, il faut accepter le manque de poésie de ce contact avec les morts.
Il y a une peur, une sorte de pudeur aussi, au fait de prendre la parole au nom des morts alors qu'on n'est pas mort. Voilà, c'est souvent dans les ouvrages post-exotiques, ceux qui prennent la parole se permettent de prendre la parole parce qu'ils sont déjà morts. Là, on est en face d'un personnage qui se rend compte de l'obscénité à ne pas être mort encore. Alors il y a de sa part, on va dire, une pudeur, quelque chose qui fait que il parle parce que il a cette urgence de parler qui prend nos personnages très souvent, tout en sachant que il s'agit de parler, mais dans la parole, il y a le choix entre dire des choses et se taire. Très souvent, il y a une sorte de paradoxe qui est exposé. Il est obscène de parler. Il n'y a qu'un seul moyen de parler, c'est de se taire.
Mmh. Vous faites une différence entre la parole et l'écriture ?
Mes personnages font une différence très grande parce que la plupart n'écrivent pas. D'abord, ils ne sont pas du tout situés dans ce monde de l'écriture, le monde de encore beaucoup moins dans le monde de la publication. Ils ne sont pas préoccupés par l'idée du livre, par l'idée du texte. Ils sont préoccupés uniquement par l'idée de faire surgir des images pour eux, pour leur mémoire, pour quelque chose d'abstrait. Hier, je disais qu'il était le réel, pour poser un peu de leur souffrance et de leur fantasme et de leur tendresse dans le réel. Et ce qui les préoccupe, c'est de survivre encore un tout petit peu, survivre un petit peu, non pas physiquement, mais par simplement la vibration de la voix ou par le souffle. Très souvent, il est question même pas de mots, mais simplement de respiration, de souffle, de bruit pulmonaire. On est très très loin de l'écriture.
On est dans une sorte d'épuisement à la Beckett.
On est dans l'épuisement, on est aussi dans quelque chose qui s'écarte un peu. Je parlais de cinéma, je pense que on s'écarte aussi un peu de la littérature et qu'on est un peu dans le théâtre. Les personnages, et peut-être que là aussi on rejoint un peu Beckett, c'est-à-dire que les personnages marquent leur épuisement par le silence et par des gestes, mais pas du tout par le beau texte ou la belle page, bien sûr.
Au théâtre, comme au cinéma, on connaît l'importance de la lumière. Ici, dans ce monde tel que Lutz Bassmann le décrit, qu'est-ce qui illumine le réel ?
La seule chose qui illumine le réel, c'est l'imaginaire. C'est le souvenir de l'affection, de l'amour, de la tendresse entre les personnages. Qu'ils soient de nature familiale ou de nature de camaraderie politique, cet amour est la lumière à laquelle toujours on se raccroche. Cela dit, dans le décor même des Aigles Pus, assez rapidement on passe d'une lumière brouillasseuse à un crépuscule de plus en plus noir et la lumière du jour, la lumière du soleil n'existe plus. On est entré dans une sorte de nuit qui peut durer indéfiniment, du moins jusqu'à la dernière respiration du personnage.
La beauté, est-ce qu'elle peut se loger dans les décombres ?
Alors, je crois qu'une des caractéristiques de l'écriture de Lutz Bassmann, c'est de ne pas voir et de ne pas parler de la beauté, de ne pas essayer d'aller vers la belle image, contrairement à ce qu'on trouve, par exemple, dans Manuela Dreger, dont on parlera demain. C'est une sorte de... On le voyait dans tous les textes précédents, c'est une sorte de non pas de refus, mais de constat désespéré. La beauté, la poésie, tout à l'heure on en parlait, la poésie n'a plus de force dans la situation que nous sommes en train de vivre. La beauté est une notion que l'on ne peut absolument pas atteindre. Et dans le texte lui-même, qui est quand même une mise en forme esthétique forcément, qui dépasse simplement ce que vit et ce que dit Lutz Bassmann, dans le texte lui-même, il y a cette constante de l'auteur qui est une noirceur plus grande que chez d'autres auteurs post-exotiques.
Une noirceur qui emporte toutes les visées esthétiques possibles. Même les histoires qui sont racontées n'ont pas de prétention littéraire, par exemple.
Les histoires, effectivement, sont traitées de façon plus brutale, que de façon plus rude, de façon moins poétisée que chez d'autres auteurs. C'est une volonté de rendre compte de l'horreur par ce procédé particulier de la mise du lecteur ou de la lectrice en face de cette rudeur, de cette rudesse et de cette horreur, sans jouer trop sur les mots, en jouant sur les émotions de façon plus brute et plus brutale que d'autres auteurs.
Ça passe pas par la bouche, par exemple, les histoires, la bouche humaine, hein, puisque Gordon Coombe est ventriloque, ça lui arrive, et que beaucoup d'histoires sont racontées en fait par ce rouge-gorge dont vous parliez au début de l'émission.
Oui, la situation en soi est terrible, puisque pour raconter et pour donner vie à ces personnages, aux personnages de Gordon Coombe, à ceux qu'il va évoquer, eh bien, il donne une voix à un pantin, un gollywog, et d'autre part à un oiseau qu'il voit mourir devant ses yeux et qui peu à peu qui a été mazouté, enfin goudronné. Et cette petite tache rouge est la seule lumière, tout à l'heure on parlait de lumière, c'est la seule lumière dans ce paysage noir de absolument charbonneux et fuligineux. Et cette tache rouge va recevoir la voix de Gordon Coombe pour l'aider à raconter des histoires. C'est une manière pathétique de faire surgir le groupe, de faire surgir un interlocuteur pour permettre à la voix d'exister, de lutter contre la solitude. C'est de créer, avec des astuces de ventriloque, des interlocuteurs et des auditeurs.
Antoine Volodine parlait du livre de Lutz Bassmann, Les aigles puent, publié chez Verdier. Et demain soir, nous le retrouverons pour une troisième et dernière émission où il sera question de 11 rêves de suie de Manuela Dreger. Du jour au lendemain, Anne Frankeny, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.